Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin de manière exceptionnelle dans Chrétien d'Orient, nous allons rediffuser une émission en hommage à Anaïde Termination, pilier de nos rencontres dominicales et qui nous a quittés le 11 février dernier. Nous allons la retrouver en Turquie, dans la région du Sassoun, pour un pèlerinage effectué aux sources de la chrétienté au cours de l'été 2014. Nous prions en ce dimanche pour le repos de son âme. Ce matin, je suis en compagnie d'Anaïde Termination. Bonjour.
Bonjour.
Au micro de France Culture, vous allez évoquer pour nous un pèlerinage que vous avez effectué cet été au cœur de l'Anatolie, en Turquie, dans le massif du Sassoun. Alors vous allez nous expliquer, bien entendu, de ce dont il s'agit. Juste pour dire que c'est une tradition qui renaît peut-être petit à petit, et par les Arméniens de l'étranger qui reviennent petit à petit en Turquie. Alors comment s'est passé ce pèlerinage et comment s'est déclenché surtout l'idée de revenir sur ces terres ancestrales?
Pour moi, c'est en effet, comme vous l'avez dit, les exemples dont j'ai entendu parler d'Arméniens d'Arménie ou d'Arméniens d'Istanbul, simplement, qui se sont déplacés pour aller jusqu'au Sassoun et pour tenter d'atteindre cette chapelle, certains disent le couvent, de la Haute Mère de Dieu, donc une chapelle consacrée à la Sainte Vierge, qui se trouve exactement à 2970 mètres d'altitude et dont l'accès, le moins qu'on puisse dire, difficile, voire très difficile.
Alors dites-nous un petit peu, en termes de géographie où nous sommes, le massif du Sassoun.
Alors, le massif du Sassoun se trouve dans la Mésopotamie, si je puis dire, de la Turquie orientale, puisqu'il est enveloppé à la fois par l'Euphrate, au nord, qui traverse la plaine de Mouche, et au sud par le Tigre. Moi, j'ai traversé le Tigre sur une passerelle en bois et en corde. Donc, on est au sens propre du terme, en Mésopotamie. Entre les deux fleuves. C'est un massif montagneux, avec tranchées de toute une série de cours d'eau, qui sont des affluents ou des sous-affluents du Tigre. Qui se déverse plutôt vers le sud et vers le sud-ouest, et qui donne naissance à des vallées parallèles. Les communications ne peuvent pas s'établir d'une vallée à l'autre. Il faut redescendre au fond d'une vallée, rejoindre un affluent et remonter l'autre vallée. Donc des communications extrêmement difficiles dans un univers absolument somptueux, de montagnes plissées, montées jusqu'au ciel. On reste un peu ahuri quand on voit ce paysage, quand on voit la structure physique de ce pays cloisonné et qui a été le lieu de combats quasiment homériques, et c'est pas par hasard que j'utilise le mot homérique, entre les Arméniens et les Kurdes, entre les Arméniens et les musulmans d'une façon générale, qu'il s'agisse des Arabes du califat de Bagdad ou des Arabes plus lointains d'Égypte. On est vraiment stupéfait de voir comment ce pays a pu être recherché, défendu par les uns et par les autres. Bon, aujourd'hui, c'est un pays peu peuplé. On reviendra peut-être là-dessus. Les Arméniens ont totalement disparu, ou pratiquement totalement disparu, en 1915, mais aussi en 1935, pendant la révolte du Dersim. Et c'est sur place, d'ailleurs, que j'ai appris qu'en 1935, une grande partie de la population de cette région avait été déportée et interdite de retourner dans le Sassoun, au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, dites-nous un petit peu de le Dersim en 1935, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, mais le Dersim, c'est la révolte du Dersim, la révolte des Kurdes. Le Dersim est une région qui est légèrement plus au nord et qui a subi des bombardements des bombardements de l'aviation turque sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui aujourd'hui est devenue une région objet aussi, non pas de pèlerinage, mais en tous les cas de visite, et où une partie de la population kurde du Dersim découvre qu'elle a peut-être ou sûrement des origines arméniennes.
Une population à Lévis, je crois, aussi en
grande
partie. À Lévis,
totalement, ou presque, vous avez tout à fait raison, à Lévis, et alors on ne va pas se lancer non plus dans une explication des rapports possibles ou impossibles entre les Alévis et puis le christianisme ou le sunnisme, etc.
Mais disons quelques mots pour résumer que le monde Alévi et le monde chrétien représenté par les Arméniens s'entendaient plutôt bien.
Pardon ?
Les deux mondes s'entendaient plutôt bien.
Ce sont deux mondes qui s'entendaient plutôt bien, et si, d'après ce qu'on m'a dit, c'est exact, les Alévis, quand ils sortent le pain, ils font... où certains Alévis feraient encore le signe de croix dessus. En tous les cas, la société Alévi est très différente. Les hommes et les femmes peuvent cohabiter ensemble, peuvent manger ensemble. Il n'y a pas ces interdictions qui existaient dans la religion sunnite la plus sévère, la séparation des hommes et des femmes, entre autres exemples.
Alors dites-nous un petit peu plus, Anaïde, quelle a été la motivation pour vous de faire ce pèlerinage ?
Alors, moi, je voulais absolument voir ce pays qui, pour moi, était d'abord l'objet d'une légende. D'une légende dont mon enfance avait été bercée, une légende que je raconte à ma petite fille et qui est la légende de David de Sassoon. Bon, légende qui intéresse d'ailleurs les historiens ou les ethnographes ou les spécialistes du patrimoine culturel les plus divers, pas nécessairement les Arméniens. Alors, cette légende de David de Sassoon, comme son nom l'indique, est personnifiée par un héros mythique, David, qui n'est que le troisième d'ailleurs. Enfin, c'est une légende versifiée, partagée en quatre parties, et qui probablement a été conçue après la conquête arabe, c'est-à-dire 7e, 8e, 9e siècle, on ne sait pas exactement quand, qui a été transmise oralement pendant des générations, qui a connu différentes variantes, plus d'une cinquantaine de variantes, et qui a été redécouverte vers les années 70 du 19e siècle par un personnage qui mérite d'être rappelé, qui s'appelait Karekin Zervantians, et qui a recueilli plusieurs variantes dans cette région, et dans le massif du Sassoon et dans la plaine de Mouche.
Donc qui a recueilli des traditions orales ?
Absolument, traditions orales, évidemment recueillies auprès de personnes extrêmement âgées. Et ce David de Sassoon, donc recueilli ainsi, la tradition orale a été fixée par un arménologue très célèbre en Arménie soviétique qui s'appelait Manouk Aperian, lequel a... Alors évidemment, a recueilli plusieurs variantes pour en donner une variante, pour en donner une transcription écrite, bon, avec tout ce que cela suppose de perte, selon moi, ne fût-ce que le son, la voix, la litanie, la mélopée du récit. Et ce David de Sassoon est très très connu en Occident, puisqu'il a été traduit de l'arménien l'ancien professeur d'arménologie aux langues orientales Frédéric Fédi, aujourd'hui évidemment disparu, et traduit de l'arménien en français, publié par Gallimard dans la collection Caucase dirigée par l'UNESCO. Alors voilà, je vous donne un peu les pères.
Un patronage très prestigieux.
Le patronage qui est tout à fait prestigieux. Ce livre a été publié en 1964. Il mérite d'ailleurs, c'est un livre absolument disparu. Et c'est en lisant à ma petite fille la légende de David de Sassoon, je dois dire en arménien, que je lui ai dit, mais tu sais, je vais aller au Sassoon cet été, et moi aussi, je vais aller faire un pèlerinage auprès de la haute mer de Maruta, de la montagne de Maruta. Et c'est son questionnement qui m'a amené à reprendre la traduction française, et je vais vous dire ce que dit la légende. Donc, la légende veut que David, qui est le troisième des héros, découvre... C'est un enfant orphelin qui est une sorte d'Hercule, à la fois généreux, naïf, un grand cœur qui se bat pour son peuple, découvre que son père Moël le grand, qui est mort et qui serait, paraît-il, une personnification de Mithra. Ça, je laisse les ethnologues dire ce qu'il en est, découvre que son père avait construit une chapelle en haut de la montagne, donc...
où vous êtes allé?
Où je suis allé, que cette montagne, cette chapelle a été détruite par les musulmans, par les ennemis, par les arabes, et qu'il découvre cela par, tout à fait par hasard, et il se met en tête de reconstruire la chapelle en question. Et il demande à son oncle Jean, qui est doté d'une terre voix, « Oh là, je lance un appel, qu'on vienne, que quiconque aime Dieu vienne ici. Nous allons reconstruire la Vierge haute de Maruta, que l'on accourt. Oh là, je lance un appel, qu'on vienne. Oh là, je lance un appel, qu'on vienne. 500 000 tailleurs de pierre, 500 000 polisseurs de pierre. Je lance un appel, qu'on vienne, qu'on vienne. Je lance un appel, 500 000 porteurs de gravier, 500 000 sculpteurs de toit. » Enfin bon, je ne vais pas vous énumérer cette liste qui en arménien est versifiée, obéit à un rythme, etc. Et ce qui est très très intéressant dans le cas de ce David de Sassoon, c'est qu'il ne se contente pas de reconstruire une église. Par exemple, je vais prendre un exemple que vous connaissez peut-être. L'année dernière, en 2013, à Diyarbakır, on a reconstruit l'église Subkiragos arménienne. On a reconstruit un monument.
Oui, au cœur de la vieille ville, bon. Absolument.
Mais ce monument est maintenant un monument, un patrimoine mémoriel. Mais ce monument, il n'y a pas de prêtre dans
vous
ce
voulez
monument.
Dire qu'elle n'est plus vivante au sens de chapelle?
Ce n'est pas, oui, sauf une fois par an ou deux fois par an, un prêtre vient ou viendra d'Istanbul pour, avec quelques fidèles, soit de passage, soit des locaux qui se sont découverts un passé arménien, vont venir. Tandis que David, le jeune David, qui est ignorant, ne se contente pas de cela et il se retourne vers son oncle, hein. Il dit, mon oncle, que je meure pour toi, mon oncle. Il me faut de toi 40 évêques. Il me faut de toi 40 vertabètes. Les vertabètes, ce sont les docteurs de la loi. Il me faut de toi 40 archidiacres. Il me faut de toi 40 diacres. Il me faut de toi 40 sacristains qui éclairent le couvent pour que nous célébrions une messe samedi. Alors, ça, c'est la légende. Alors, nourri de cette légende et nourri des exemples que vous avez bien voulu évoquer tout à l'heure de quelques Arméniens qui, grâce, je dois dire, à la tolérance montrée par le gouvernement de l'AKP depuis quelques années vis-à-vis, j'ai dit la tolérance, je devrais dire relative, montrée par le gouvernement de l'AKP vers quelques événements commémoratifs arméniens ou même vis-à-vis actuellement des Kurdes de la région de Diyarbakır, je me suis dit, il faut que j'aille là tant qu'il est temps.
Est-ce que vous avez pris cette décision toute seule ou est-ce que
j'ai
vous êtes allée...
J'ai pris ma décision toute seule.
Avec d'autres personnes?
Non. J'ai pris ma décision toute seule. C'est-à-dire une personne qui devait venir avec moi s'est désistée. Et à partir de ce moment-là, j'ai annoncé autour de moi qui veut venir avec moi. J'ai trouvé dans la famille deux volontaires et j'ai accepté. Après quoi, je me suis préoccupée de trouver quelqu'un qui puisse me guider là-bas. Et donc, à partir de Paris, j'ai découvert pour aller dans cette région, il fallait prendre l'avion pour aller à Batman. J'ignorais tout de Batman, absolument tout. Et donc, il a fallu organiser aussi cette partie du voyage, débarquer à Batman. Enfin, je ne vais pas entrer maintenant dans les détails qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, les détails matériels.
Donc, on est en Turquie, faut-il le rappeler, on est au cœur de la Turquie, un
alors,
petit peu sur
l'est,
son...
Alors, on est juste à quelques kilomètres de Mardin, c'est-à-dire pratiquement à la frontière entre la Syrie et l'Irak, et pas à quelques kilomètres aussi de la frontière iranienne. C'est un coin qui n'est pas trop recommandé, qui n'était pas trop recommandé aux touristes. Mais j'ai trouvé aussi dans cette région une population tout à fait généreuse de Kurdes et d'Arabes. Et ceux qui se disent Arabes, ce sont selon moi essentiellement des Assyriens ou des descendants d'Assyriens qui parlent une langue arabique qui n'est même pas l'arabe tel que je l'entends dans le métro parisien, qui est sans doute un dialecte local de l'arabe ou peut-être du syriaque, parce que ils sont alphabétisés en turc, mais ils sont tous totalement ignorants de leur propre folklore, sauf ce qui est traduit oralement.
Alors, je vous rappelle que vous êtes sur France Culture. Je suis en compagnie d'Anaïde Termination ce matin et nous évoquons un pèlerinage, le pèlerinage de la Haute Mère de Dieu que vous avez réalisé cet été, alors qui est une première d'une certaine manière.
Non, pour moi, c'était une première, mais c'était pas une première. D'autres étaient passés avant moi. Et puis, quand je suis rentrée en France, je me suis préoccupée de savoir qui avait pu écrire quelque chose en dehors de David de Sassoon, qui pouvait me faire comprendre, j'avais bien des textes arméniens, mais ces textes arméniens n'étaient pas utilisables localement, sauf dans deux ou trois cas, que je précise, par exemple, la ville de Sassoon a conservé son nom, mais vous savez que toute la toponymie a été modifiée, et miraculeusement, sauf dans quelques cas ou quelques villages, ont conservé exactement leur nom ancien. Mais ça supposerait non pas un voyage d'une semaine ou de 10 jours en pèlerinage, ça supposerait une véritable expédition au moins de 6 mois dans la région pour aller chercher les lieux en question.
Alors ce que vous me disiez quand nous préparions cette émission ensemble, que cette chapelle était commune aux Arméniens et aux Kurdes.
Alors,
est-ce que c'est toujours vrai?
Alors, les Kurdes, il se trouve que le pèlerinage à la Haute Mère de Dieu, de Maruta Ler, de la montagne de Maruta, correspond à la fête dite de Vartavar, dont nous avons déjà eu l'occasion, la fête qui correspond à la transfiguration du Christ et qui est une fête de l'eau, et qui est certainement une fête extrêmement ancienne. Il se trouve que cette année, les Kurdes de cette région, qui se trouvaient dans les Ayla, c'est-à-dire les hauts pâturages d'été, à 300 mètres du sommet, et où j'ai vécu avec les femmes, les chèvres, les enfants qui étaient là dans des sortes de cabanes en pierre, enfin dans des conditions très très élémentaires, c'était Bayram.
Bayram, donc c'était le dernier, la fête du Ramadan.
Voilà, mais c'était aussi une fête mobile là. Donc cette année, les deux coïncidaient et les Kurdes nous ont dit que lorsque Bayram serait achevé, c'est-à-dire 2 jours après, nous avons fait ce pèlerinage entre le 26 et le 28 juillet 2014. Eux, Bayram s'achevait et ils devaient monter, franchir les 300 mètres qui restaient quelques jours après. Quand même, ce qui était intéressant pour nous, c'était de découvrir que ces Kurdes, les locaux, avaient une forte mémoire des événements qui se sont passés il y a un siècle, à savoir le massacre, le génocide des Arméniens et la disparition des 150 à 200 villages arméniens de la région.
Vous pouvez en parler librement avec ces gens-là?
Avec l'intermédiaire de quelqu'un qui parlait le turc. Soit pour me faire plaisir, soit parce que c'était sincère, ils ont toujours dit « ma grand-mère était arménienne ». Déjà, le fait que ce fût une grand-mère correspondait bien en effet aux événements qui se sont passés en 1915, une grand-mère ou une arrière-grand-mère, puisque les hommes ont été tués, égorgés, etc. Les enfants et les femmes ont été enlevés, dans le meilleur des cas. Bon, ma grand-mère était arménienne. Des Kurdes musulmans, des Syriaques ou des Arabes musulmans. Avec une hiérarchie du mépris, d'ailleurs. Les Kurdes méprisant un peu les Arabes du Sud. En disant « eux ». Ce sont des descendants d'Arméniens. Pas sûr. Vous voyez, il y a tous ces problèmes-là. Et puis, petit à petit, j'ai découvert, sur place, qu'il existait une mémoire historique arménienne, en tous les cas liée à la légende de David de Sassoon. Alors, nous avons visité les ruines de ce qui semblait être le château de David. Mais à côté duquel, grâce aux soins d'AKP, on venait de monter un minaret, avec musique enregistrée.
L'autre versant de la politique AKP.
Mais tout à fait récent. On nous a emmenés à une fontaine dont l'eau venait de Zovassar, qui était la montagne sacrée où David avait vécu, etc. Donc, toujours lié à David de Sassoon. On nous a emmenés dans des lieux, sur des flancs de montagne, une grotte inaccessible. Je dois dire que moi, on ne m'a pas laissé franchir la zone de pierrailles qui descendait à flanc de montagne pour aller jusqu'à la grotte. Et on m'a dit, mais cette grotte, c'est la chapelle des 40 martyrs, des 40 martyrs. La personne qui m'a dit ça ne savait pas ce que c'était que ces 40 martyrs. Moi, pour moi, les 40 martyrs, c'est les 40 soldats chrétiens qui ont été massacrés à Sivas au IIe siècle après Jésus-Christ. Et en effet, dans cette chapelle transformée en bergerie, Et bourrés de puces, ceux qui sont entrés dans cette grange en sont sortis couverts de puces. Sur les murs, il y avait effectivement des croix arméniennes gravées. Et le grand choc, véritablement le grand choc, ça a été la découverte près du village de Gomk, qui a conservé son nom ancien de Gomk, à 2 heures de marche. Les restes d'une très très grande église qui a été l'évêché arménien de Sassoun jusqu'en 1915 et qui s'appelle exactement Sur Pedros Madin Arakial Vank, ce que je traduis. Vank, ça veut dire le couvent de l'apôtre du petit doigt de Saint-Pierre. Et on appelle cela aussi Tchuguit, Vank. Tchuguit en arménien veut dire petit doigt. On dit aux enfants, Tchuguit, Tchuguit, c'est un terme. C'était un très grand couvent qui a été détruit avec acharnement. Mais l'acharnement des hommes pour rechercher l'or ou l'argent et pour rechercher les reliques, les reliques sous forme d'or, n'ont quand même pas détruit la totalité de l'ensemble qui reste extrêmement impressionnant, avec un arche triomphale, un martyrium, le tout au milieu de ruines qu'il faut enjamber, etc. Ça, c'est véritablement un crève-cœur. Et dans ce couvent de Saint-Pierre, la légende veut que ce couvent ait été fondé au IXe siècle par des lazaristes arméniens de la plaine de Mouche, qu'il est devenu le siège de l'évêché du Sassoun, que c'était un couvent extrêmement riche dont les biens et les troupeaux s'étendaient jusqu'à Diyarbakir, qui n'est pas quand même la porte à côté, et qu'il y avait des reliques, bien sûr, le petit doigt de Saint-Pierre, ramené miraculeusement de Rome, jusque-là, et quelque chose qui a un peu un rapport aussi avec un autre événement historique très important, le bouclier d'acier de Vartan Mamigonian, Vartan Mamigonian étant le général héros qui en 451 s'est battu à Avarayr contre les Zoroastriens persans. Et paraît-il, ce qui était à mes yeux encore plus important, il y avait paraît-il une très importante bibliothèque de manuscrits. Qui a été dispersé. Alors, ce qu'on sait, parce que j'ai parlé avec le Mourtaj, c'est-à-dire le maire du village de Gomk, père d'une douzaine d'enfants.
Dites-nous.
Un monsieur qui lui aussi prétendait que sa grand-mère était arménienne, son arrière-grand-mère, et qui voulait que nous demandions au Kaimakam,
sous-préfet
de la région, qu'on ouvre une route. Parce que c'était une piste...
Pour vous rendre à ce monastère.
Se rendre à notre monastère, mais ce qui aurait peut-être signifié la fin totale du monastère, parce qu'il aurait été pillé encore davantage.
Anaï Termination, je vous remercie infiniment pour cette évocation.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Merci de votre attention et longue vie à la mémoire de cette grande dame. Nous retrouvons maintenant le cours normal de nos émissions, avec dans quelques secondes le service protestant.